RMC.
PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh, nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Arnaud Souk.
L'after jusqu'à minuit sur RMC en simultané. Sur RMC BFM Sport, bonsoir François Manardo.
Bonsoir les amis et bonne année évidemment. Bonne
belle année à toi. 18. Tu as mis un petit col roulé pour bien la commencer parce que tout comme moi, tu es en train de perdre ta voix.
Exactement, là on est quelques dopés autour de la table.
Voilà, exactement, on s'est dopés. Pas Jonathan McCarty, il n'a pas besoin de ça.
C'est
ni
whisky.
Pour sa voix, ni pour ses muscles. Ça va,
c'est
Jonathan.
Louis qui t'ai dit. Salut Arnaud, salut
dopé
François.
Dopé et bourré, on va voir la différence.
Oui, on va voir la différence.
Non, avec modération, c'est
avec
toujours.
Modération.
Et d'ailleurs, je salue les vendeurs de la maison du whisky qui sont des grands auditeurs.
Des caisses de bouteilles gratuites.
Non,
qui m'ont demandé de leur faire
qui sont,
un petit
qui sont
ce
des
soir.
Auditeurs de l'émission et un très grand supporter d'Amiens.
Bon. Et en fait, les mecs qui connaissent rien au foot, ils l'ont juste promis une caisse de whisky s'il est cité dans l'émission.
Non, pas du tout, ils n'ont pas besoin de moi, je crois.
Moi,
c'est le plus beau magasin de whisky au monde.
Piscine,
hein.
Parce que j'en connais, ils vont m'en construire une chez moi dans pas longtemps. Non, bon, je déconne.
Évidemment, à consommer avec modération, messieurs. Au programme de la soirée, vos avis tranchés, on parlera notamment de Kostas Mitroglou tout à l'heure, attaquant de plus en plus controversé à l'Olympique de Marseille, 32-16 et hashtag RMC Live, les infos du jour également au menu. Que s'est-il passé sur la planète Mercato? On va en parler. Et puis la deuxième heure, Chérif Guémour sera avec nous, lui qui a écrit un livre sur les 100 ans de la Coupe de France. Les 100 ans, c'était l'édition 2016-2017, mais enfin bon, la vieille dame, elle a pas finalement pris tant d'âge que ça. On parlera avec lui de la Coupe 2018, les 32e de finale qui se déroulent ce week-end. Il marque, vous le savez, les entrées en lice des clubs de Ligue 1. Juste avant le mercato show, on va faire un petit point sur nos directs du soir, messieurs. Je sais pas par quoi commencer, la 20e journée de Serie A, peut-être Fiorentina, Inter, Milan, c'est sous les yeux de Benji Ramagé. Salut Benji.
Salut Arnaud, salut l'after.
Salut Benji.
Salut Benji.
Toujours 0-0 après 54 minutes de jeu entre la Fiorentina et l'Inter. Un match un petit peu particulier. Ça joue bien, mais pas beaucoup d'occasions franches avec notamment deux Français dont on parle rarement, mais qui font de très bonnes prestations tous les deux ce soir. C'est Jordan Veretout et Cyril Terreau. 0-0 entre la Fiorentina et l'Inter. Et puis la FA Cup, le troisième tour. 1-0 pour Liverpool face à Everton dans le derby de la Mersey après 50 minutes de jeu. Le buteur James Milner sur penalty à la 35e.
Merci Benji. Évidemment, t'interviens dès qu'il se passe quelque chose. Messieurs, les infos mercato du jour. Et d'abord une info qui va forcément vous intéresser, j'en suis sûr. Je dis pas que les autres vous intéresseront pas, mais celle-là plus que les autres.
Oui.
Patrice Evra, qui aurait peut-être trouvé en Turquie de quoi rebondir. Il est en discussion visiblement avec Galatasaray. Ouais. C'est son ancien coéquipier Bafé Gomis qui ferait le forcing justement pour l'attirer.
C'est un club d'art martiaux, Galatasaray.
Pardon.
C'est un club d'art martiaux, Galatasaray.
Oh non, parce que comme on expliquait le soir de l'incident, son coup de pied était techniquement très sale et mal placé.
T'as trouvé?
Ah c'était ouais, la preuve, il est obligé de se tenir sur Rolando au moment de l'envoyer, sinon il se casse la gueule.
C'est Rolando qui le tient. C'est Rolando qui le tient.
Mais il prend appui sur lui, le bassin mal engagé, la main pas assez haute en cas de contre. Non, il voit définitivement, c'est pas un combattant de MMA, Patrice Evra, et la Turquie pourquoi pas, mais bon,
Galatasaray, ouais, il va avoir des supporters chauds.
Ouais, il va avoir des supporters chauds. Non, mais c'est bon, après on sait qu'il est
il
très
va filer des shawarma aux
très amis
j'avais oublié cette
on sait qu'il est très ami avec Bafétimbi Migomis, Patrice Evra, et c'est vrai que Gomis visiblement veut le faire, enfin fait tout pour qu'il vienne le rejoindre à Galatasaray. C'est pas un petit peu étonnant de la part d'un club tout simplement d'avoir envie de faire venir ce gars qui a 36 ans
sur Pat Evra? Évidemment je le chambre un peu parce que je l'ai connu et que je l'aime bien au demeurant, je le connais différemment on va dire du grand public, mais la dernière fois que je me suis entretenu avec lui, il était encore à la Juve, c'était la saison passée, à l'occasion d'un match de Ligue des Champions à Séville, et il me confiait son envie de devenir entraîneur. Et je pense qu'il n'a pas encore compris que sa carrière de joueur, elle est vraiment, vraiment maintenant derrière lui.
Ouais.
Et que voilà, Pat, si tu veux devenir coach et enfin passer tes diplômes, il veut le faire en Angleterre, mais vas-y quoi, fonce, va dans cette direction, parce que le match de trop, le club de trop, au bout d'un moment, c'est pas pathétique, mais on s'en approche.
En tout cas, c'est un sacré kiffeur, hein, parce qu'il a essayé de se faire placer à Boca. Là, Eva Galatasaray, j'ai l'impression qu'il fait sa tournée d'adjoint en disant bon, où est-ce que je peux un peu kiffer mes derniers instants de, oui. de foot de là, parce que c'est, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un mec qui aime le foot, tu vois.
Ah bah ça oui.
C'est un mec qui aime le foot, c'est un vrai
amoureux. Aller chercher un défi en Turquie, oui.
C'est un dingue de foot, ce qui est pas le cas de tous les joueurs. Ça peut surprendre, mais effectivement, oui, c'est un dingue de foot. Et j'ajouterais, et là, ça va choquer ou surprendre encore, c'est un dingue de l'équipe de France. Mais bon, là-dessus,
mais ça, il y a aucun doute à avoir.
Il y en a encore qui le pensent par rapport à 2010, mais en revanche, là-dessus, je pense qu'il est lucide, il a vraiment fait une croix, quoi.
Juste comme ça, est-ce que c'est pas étonnant de la part d'un club comme Galatasaray de chercher à s'attirer les services de ce gars-là? Je redis qu'à 36 ans, qui manifestement quand même au niveau physique, il était plus trop. En tout cas, à l'Olympique de Marseille ces derniers mois avant de se faire virer.
C'est pas fait. Attendons de voir si Galatasaray s'engage vraiment avec.
Il y a d'autres clubs turcs. Il y a d'autres clubs turcs qui visiblement seraient sur lui, des clubs émiratifs. Enfin, il va retrouver quoi qu'il arrive. Mais bon, bah, c'était pas forcément la recrue que j'aurais imaginé. Comme
les Émiratis, ils peuvent recruter dans le troisième âge footballeur puisqu'ils viennent de récupérer Schneider.
Si c'est Galatasaray ou Beşiktaş, tu vois, c'est pas tout à fait pareil.
Surtout sa femme.
Ah,
c'est une belle.
Ils ont ouais, enfin,
c'est une grosse perte pour la France.
Ouais, peut-être, je sais pas, mais ça n'a pas été une grosse perte pour Nice. À part, même pas en salaire, au contraire, Nice va y gagner.
On va, vous savez quoi, avant de continuer à développer ces infos mercato, on va aller retrouver Benji, parce qu'il y a un but entre la Fiorentina et l'Inter, Benji.
Oui, but marqué par l'Inter, marqué par Mauro Icardi, décidément toujours lui, Jonathan le connaît bien, l'Argentin, ouais. Il vient d'ouvrir la marque à la 55e, un coup franc d'abord repris par Icardi, repoussé par le gardien d'une belle parade, Sportiello qui repousse malheureusement dans les pieds d'Icardi, et ça fait 1-0 pour l'Inter sur la pelouse de la Fio après 58 minutes de jeu, toujours 1-0 également pour Liverpool face à Everton après 55 minutes.
18e but. Je crois,
ok Benji,
18e match, il me semble.
C'est au Real, hein,
en 19 ou 20 matchs.
On en parle, hein. On en parle de Mauro Icardi éventuellement au Real Madrid. Vous savez que Zidane a ouvert la porte éventuellement à des transferts pendant le mercato hivernal, justement parce que Benzema, bon, même s'il est revenu là de blessure, il est pas forcément très performant depuis le début de l'année. C'est vrai que Mauro Icardi,
tu sais quoi,
est quand même assez
énorme. Mais t'as raison, mais Icardi, en fait, on en dit ce qu'on en veut. Hein, bah, il y avait le scandale avec Sabio, où les tifosi de l'Inter l'attendaient, où il a dit je les prends un pain et tout. Mais je pense quand même qu'il est quand même attaché au club de l'Inter, et je le vois mal partir comme ça en cours de saison alors que l'Inter joue quelque chose.
Oui.
Maintenant, si c'est le Real qui t'approche, il y a une réflexion qui est différente que si
oui,
c'est.
Oui, et puis ça peut être aussi pour la fin de saison. Enfin,
un autre club.
Obligé que ce soit.
Puis il a la Coupe du Monde qui arrive, il n'est pas forcément installé. Enfin,
cette perspective de la Coupe du Monde, c'est celle qui va le plus peser dans la réflexion d'un joueur qui a comme objectif, s'il n'est pas assuré d'être titulaire, et il en fait partie, comme objectif de la disputer avec l'Albi Céleste.
Autre info mercato du jour, Wesley Sneijder, on en parlait depuis quelques jours, il est en discussion très avancée avec le club qatari d'Al Gharafa. Apparemment, voilà, il pourrait même signer son contrat dès ce week-end.
Il me semble que c'est fait, en tout cas le club d'Al Gharafa au Qatar l'a annoncé.
Oui, non mais voilà, bon, c'est pas encore fait, il doit signer dans le week-end. C'est pas
une
encore
grosse économie dans
officialisé
la masse,
en tout cas.
Une grosse économie dans la masse salariale de l'OGC Nice, c'est sportivement. Alors, Roland Courbis, quand il a signé cet été à l'OGC Nice, en coulisses, m'avait soufflé. On m'a dit qu'il était cramé. Désolé pour l'imitation, Roland. On m'a dit qu'il était cramé. Et il a été effectivement un joueur qui, outre un peu l'excédent de poids, mais quand il est rentré en jeu, à part un match et demi, a pas montré même pas les lueurs de son
tu
talent.
Sais,
il n'a pas été bon, en fait.
Quand il a signé cet été, tout le monde était assez enthousiaste. Moi, j'ai tout de suite tiqué sur deux choses. Donc,
enfin, on se posait des questions. Hein. Je me souviens, on était tous les trois ici à
c'est
se poser beaucoup de questions.
Les deux questions principales que je me posais, c'était une, dans le schéma tactique de Favre, il n'y a pas de meneur de jeu. Donc, quid de Wesley Sneijder, qui joue forcément dans l'axe. Tu peux pas le mettre sur un côté. Ouais. Tu peux pas le mettre en soutien de l'attaquant. C'est un pur numéro 10. Et la seconde interrogation, c'est que c'est un joueur qui a jamais beaucoup couru. Et
je sais pas. Fait courir la balle.
Voilà. Mais avec Fab, si tu cours pas, si tu fais pas tromper les défensifs, si t'as pas le volume de jeu, c'est mort.
Mais c'est dans sa culture, parce que il a, bon, outre le Real, à l'Inter, il a, avec Mourinho, le repli défensif, il en savait quelque chose. Après, plus les cannes, sans doute, pour faire ce repli.
Il était libre
dans
à l'Inter,
le schéma.
Hein. C'était le seul joueur qui défendait pas dans le système 10, de l'Inter.
Enfin, c'est un 10 presque exclusif.
Oui.
Sur un côté, il pouvait pas donner grand chose.
À l'Inter,
après,
c'est le seul joueur qui était exempt des tâches défensives.
Je vais pas dire le schéma, mais les schémas de Favre. Combien de schémas Favre a utilisé cette saison? Et quand il a commencé la Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam, sur le deuxième tour préliminaire, il a joué avec un 4-2-3-1 qui mettait le Tunisien Srarfi en 10 parce qu'il y a un bagage technique, mais surtout le gamin, il a les cannes. Schneider était censé être ce joueur, mais il a jamais trouvé
sa place.
Il
a pas le profil pour jouer dans la philosophie de jeu que Favre.
Et puis pas bon à part ouais un match à Caen.
Après là où
le dernier
étonné,
qui a joué d'ailleurs.
Là où je suis étonné, c'est que Lucien Favre justement, il a quand même réussi à faire aussi de Balotelli ce qu'il est redevenu à.
Et Balotelli à nice, avec Favre,
notamment.
C'est les deux.
Oui, parce que Balotelli a le
à Nice
profil.
Aussi, il y a d'autres joueurs qui se sont relancés. Je pense à Tem Ben Arfa, je pense à Balotelli, même si Ben Arfa c'est un peu autre chose.
Mais Balotelli a le profil idoine pour jouer dans le système de Favre.
Oui.
Il a le volume. Il est feignant, mais il a quand même une forte capacité physique, une forte densité physique.
On parlait aussi d'un joueur cramé au moment où il est arrivé.
Non, il n'était pas cramé. Il a juste besoin d'encadrement.
On n'en savait rien. Il
avait il était pas cramé physiquement, Arnaud.
Il manquait de rythme. Il avait vraiment une remise en condition.
Oui, mais c'était pas la date de péremption qui s'approchait. C'était juste
les conditions de ses contrats pour éviter qu'il sorte, pour l'obliger à s'entraîner, etc.
C'était un joueur qui, entre Liverpool et Milan AC, je crois qu'il avait disputé 7 ou 8 match,
ouais,
c'était
ça, ouais.
Terriblement à court de rythme, et c'est un joueur aussi qu'il fallait remettre en termes d'état d'esprit sur les rails. Favre et Balotelli ont réussi à relever ce défi. Après, sur le système, dans le 4-4-2, c'est là où il s'exprime le mieux, avec un attaquant qui tourne autour de lui, en 4-3-3, qui est un peu le système aussi maintenant qui plairait avec Saint-Maximin et Pléa sur le côté, ça marche aussi. Mais ça marche aussi pourquoi? Parce que Balotelli, aujourd'hui, si tu le reprends en sélection italienne, il n'y a pas à crier au scandale. C'est un joueur qui est vraiment revenu en forme. Qui est vraiment un joueur qui refait parler de lui.
On peut pas
maintenant,
comparer les deux.
La Ligue 1 et le niveau, le plus haut niveau, on attend de voir. Mais c'est un joueur qui peut prétendre
on peut pas comparer les deux, c'est juste une question d'âge et de potentiel physique, c'est tout. Quoi.
Allez, messieurs, on va accueillir Laurent, supporter de Nice, qui a fait le 32-16. Vous réagissez également sur le hashtag RMC Live à toutes ces infos Mercato. Salut Laurent.
Bonsoir.
Salut Laurent.
Salut Laurent.
Et bonne année à vous.
Bon, merci. Sur le cas Schneider, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, écoute, je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, moi, je suis content de le voir partir. Ce qui me frustre un petit peu, c'est qu'au moment où il revenait, j'avais vu le match qu'il avait fait à Caen. Ouais. Et je l'avais trouvé pas mal, et puis il s'est reblessé derrière. Donc, pour convaincre, c'était déjà difficile, mais là, je pense que bon, c'était trop dur.
Bien sûr. Ouais.
Maintenant, moi, je suis assez content qu'il parte, parce que bon, visiblement, il y avait trop de soucis, même musculairement pour lui. Mais il y a toujours quand même, bon, je pense que ça va ouvrir une fenêtre financière pour Entep, puisque visiblement il y a un gros salaire à payer, d'après ce que je sais, puisqu'il viendrait en prêt. Ça, je pense que ça serait une bonne idée, enfin, à condition qu'il se remette en forme, parce que visiblement il a fait très peu de matchs. Mais moi, je suis toujours très inquiet sur le poste d'arrière gauche, parce que depuis le début de la saison, je comprends pas. On joue avec Jallet, qui d'ailleurs là est blessé. Quand Jallet est blessé, ben, il n'y a plus personne, parce que maintenant ils mettent Le Marchand, qui est quand même un arrière central. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas un effort aussi pour prendre un arrière gauche. Quand tu veux jouer quand même l'Europa League et viser la cinquième place, comment tu peux faire toute une saison sans un vrai arrière gauche?
Ils l'ont pris, sauf que c'est un four.
Oui, c'est Colli, on l'a vu.
C'est
Colli,
un four.
Je l'ai vu, le seul
match qu'il a joué cette saison, c'était un match qui comptait pour du Nord à Arnhem. Et
voilà,
je l'ai trouvé pas au niveau.
Bon, là, c'est un traitement avant de se planter. Ouais, il fait un seul match, mais quand même, moi je pense à Lo Celso à Paris qui prouvait au bout de 10 minutes. Hein, tu dois pouvoir quand même prouver sur une heure et demie que tu peux faire quelque chose. C'est vrai qu'il Colli sur ce match-là, ça avait été un désastre. Mais ils l'ont pris. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen avec la masse salariale qui se dégage de prendre justement un arrière gauche? Visiblement, c'est pas dans l'intention des dirigeants niçois. Je ne sais pas si vous avez des infos à ce niveau-là.
Non, pas plus que toi, mais de toute façon, c'est toujours des situations en hiver qui sont compliquées, parce que tu prends des joueurs qui sont pas au top de leur forme, donc c'est des paris aussi, et tu peux te planter. Alors, la cellule de recrutement de l'OGC Nice, elle a connu des meilleures saisons que la dernière intersaison. Là, Le Marchand, je l'ai pas trouvé mauvais, moi, sur le côté gauche, même si c'est pas son poste de prédilection. Quand le gamin, gamin, c'est pas péjoratif non plus, quand Sarr a eu quelques titularisations sur ce poste aussi qu'il a pu occuper par le passé, il a pas été catastrophique. Oh. Et enfin, tu dois faire avec la boîte à outils que tu as.
Voilà, bien sûr.
Il faut que tu fasses.
Le vrai
joueur qui manque dans cet effectif à ce poste-là, c'est celui qu'ils ont prêté à l'Olympique de Nîmes, et c'est Boscali. Qui est en équipe de France Espoir, qui lui a été formé au club, certes, mais qui est un bon joueur à ce poste-là de devenir, qu'ils ont prêté, voilà, c'est comme ça, ils peuvent pas le récupérer. Et là, pour le coup, je pense que dans la situation que connaît le club actuellement, il aurait été titulaire.
Bah, il paye la connerie d'Albert. Hein, il l'a payé en longtemps. Hein.
On remercie Laurent en tout cas d'avoir fait le 32-16 supporter de l'OGC Nice.
Ils ont tergiversé, ils ont trop attendu.
Bonne soirée.
Ça,
ils
cartonnent pas. Hein.
Vous dites pas bonne soirée à Laurent.
Bonne soirée Laurent.
On continue à développer notre info mercato, nos infos mercato du jour. Tiens, Zinedine Machache qui devrait a priori rebondir à Naples. Alors ça, moi, je dois vous avouer que c'est quand même l'info depuis le début du mercato qui m'a fait le plus réagir. L'ancien Toulousain viré quand même pour avoir frappé un entraîneur d'une équipe, d'une autre équipe que l'équipe première en l'occurrence.
Il a le droit de jouer après.
Du TFC. Il est recruté par Sassuolo ou par Benevento. Qu'on doit à ces clubs-là.
De garder la tête froide là-dessus. Bon, c'est un joueur qui est pétri de qualité. Okay.
Ouais,
il a un grand volume.
On l'a dit à l'OM.
Écoute jusqu'au bout. Il a un grand volume de jeu.
Oui.
Techniquement, c'est quand même pas mal. Et il a une très bonne qualité de passe. Mmh. Le fait étant qu'en France, ça marche pas. Moi, je pense qu'au Napoli, quand je vois, par exemple, le match d'Adamounas en coupe, la gestion d'Adamounas par Maurizio Sarri et les progrès d'Adamounas, je me dis pourquoi pas. Il a du potentiel, je pense qu'il a besoin d'être drivé, je pense qu'il va arriver, il va rencontrer un fou furieux d'entraîneur qui va rien lui laisser passer, qui le fera pas jouer tant qu'il assimile pas certains préceptes et qu'il acquiert pas une certaine intelligence de jeu. Il a le potentiel pour, je pense qu'il a, il va être dans les mains parfaites, alors son agent est très fort hein, mais il va être dans les mains parfaites pour progresser, pour réaliser son potentiel. Je demande à voir. Après, attention hein, au Napoli, Sarri, il en a des milieux de terrain dans son genre. Et il ne fait pas jouer pour autant. Mmh. Rogue, Zielinski, Jawara, Jorginho, Alan, il y a du monde. Hein. Va falloir, à mon avis, s'il y va, c'est pour finir sa formation, pour faire les entraînements, mais je doute qu'on le voit. Du moins cette année.
Bon, François.
Moi, je suis un peu surpris qu'ils aillent le chercher. Pas simplement par rapport... oui, il a des qualités, mais pas simplement par rapport au fait de récupérer de la qualité dans l'effectif. C'est toujours cette question, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes à un gamin, quel temps de jeu tu vas lui donner? Et lui, du coup, ok, il y a le salaire. Ok, ça peut leur faire tourner la tête, parce que entre Toulouse et Naples, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas beaucoup à hésiter, même si dans l'histoire des Coupes d'Europe, ça s'est passé dans le sens de Toulouse. Mais pour un gamin qui a ce talent-là, et qui doit le démontrer, quelque part, Harit s'en sort mieux avec Schalke. Et lui, c'est à peu près la même génération, hein.
Ouais, ouais.
Mais lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir... ok, c'est bien les entraînements à Naples, tu le dis, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir en tirer pour son bénéfice et Naples aussi?
Je vais te répondre clairement. Je l'ai vu, on l'a vu jouer, j'ai eu une attention particulière quand il a joué à l'OM, il a pas joué beaucoup, mais voilà. Je pense que c'est un joueur, ça pue le joueur qui a pas vraiment fini sa formation. Et je pense que, ok, son choix est intelligent dans le sens où il va côtoyer ce qui se fait de mieux en Europe avec Guardiola comme entraîneur.
Ah,
il
ne
jouera pas. Mais il jouera pas. Peut-être. Mais Ounas, il joue. Là, il joue. Pas il joue des bouts de match. Mais tu vois les progrès qu'il a fait. C'est pas le même joueur. C'est plus le même.
On enchaîne, messieurs, avec Jérémy Ménez qui lui va rejoindre a priori le Mexique. Je vous coupe la chic parce que vous dépassez largement les temps de parole autorisés. Ça va, me fait pas la tête.
Si c'est que la chic, ça va.
Jérémy Ménez va rejoindre le Mexique. L'América de Mexico, a priori, est tombé d'accord avec Antalya Sport en Turquie, voilà, pour le faire venir. Encore un joueur français au Mexique.
Très bien.
Très bien. Bon.
Là, on est dans le ouais, mais on est sur des types en fin de carrière et qui enfin, prennent, ouais. Oui, alors ils kiffent.
Jérémy Ménez, attends, c'est pas tout à fait fin de carrière quand même, hein. Il a 30 ans, Jérémy Ménez.
Non, mais fin de carrière, tu me comprends. C'est-à-dire que c'est un joueur, non. J'ai l'impression qu'on en assiste aux dernières flammes, quoi.
Alors, c'est pas dit qu'il aille là-bas et qu'il soit titulaire parce qu'il y a quand même de la qualité dans l'effectif.
Alors, regarde,
c'est le club qui a le plus beau maillot au monde, je trouve. Mais surtout.
Ce jeu-là, c'est personnel.
Non, il est super beau, leur maillot. Mais surtout,
le rouge et blanc.
Il va dans un. Ouais, le bleu avec noir et bleu très foncé avec des motifs rouge et bleu. Bref, il va dans un championnat qui est quand même très compétitif, il y a quand même un très bon niveau, il y a des très bons joueurs. Courage à lui pour se faire sa place. Et puis voilà, l'aventure extraordinaire qu'est en train de vivre André Pierre Gignac, si ça peut en inspirer d'autres, moi je trouve ça intéressant à voir. Et puis les salaires sont pas dégueulasses aussi là-bas.
Bah, pas ouais. Du tout.
Bah
pas
là on
tout.
Parle de, enfin on parle pas de salaire d'ailleurs, mais on parle déjà d'une indemnité de transfert de 800 000 euros versée. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un petit peu d'argent pour la verser en Antalya Sport.
C'est pas le championnat mexicain que je critique, hein, moi. C'est par rapport à ce parcours maintenant. Ça marche pas en Turquie, dans un club. Un second couteau du championnat turc. Je me rattrape avec un championnat que je pense un peu plus relevé que le championnat turc, un peu plus relevé. Moi, c'est le choix du club. Le choix de Jérémy Ménez, ouais, j'ai l'impression que c'est le choix d'un joueur qui va kiffer un peu d'oseille, c'est normal après tout.
Il va prendre des sous, il va kiffer.
C'est tiens, bien. En Ligue 1, messieurs, à Angers, on refuse 14 millions d'euros pour céder Karl Toko Ekambi. 9 buts cette saison en Ligue 1. C'est pas beaucoup,
C'est qui l'offre?
Alors on n'a pas l'information sur qui a fait cette offre. Mais en tout cas, le club confirme avoir refusé une offre de 14 millions d'euros pour ce joueur. En même temps, ils ont besoin de le garder aussi parce que Angers, voilà. Ça va pas très
et
bien.
Puis il en plante encore 5-6 d'ici la fin de la saison. Ils le vendent et ils sont bien capables de trouver un club à 20-25 millions en première ligue. Non, ils ont raison. Et puis c'est pas le moment pour eux de vendre.
Hein. Mais si un club comme Angers, si Saïd Chaban se ouais, s'autorise à refuser 14 millions d'euros, c'est qu'il sait que la valeur de son joueur dans 6 mois, il pourra
effectivement la valeur sera pas
des 20-21.
Sauf si juste pas qu'il se blesse, auquel cas ils seront obligés de vendre et peut-être voilà, ils pourront pas se permettre de faire non plus trop monter les enchères. Ross Barkley vers Chelsea, voilà, c'est quasiment fait pour le milieu offensif d'Everton.
Tu dis cet été ils ont proposé 27, Everton refuse. Ils en proposent 37. Oui. Everton accepte, mais Ross Barkley veut pas parce qu'il dit qu'il préfère attendre janvier parce qu'il est blessé. Et au final, Everton s'en fait carotter et il part à 17. Bon. 20 millions de perdus. Voilà. Bon, à l'échelle de la PL, c'est
ça
rien,
ça ressemble quand même à une très bonne affaire pour Chelsea, de plusieurs points de vue. Du coup,
s'il est en bonne forme, oui.
Voilà.
S'il est pas blessé.
Ouais.
Parce que c'est quand même un joueur un peu fragile.
Tiens, dernière info, mercato du jour. Carlos Tevez vers Boca Juniors.
Oui!
Il sera en passe de trouver un accord avec son
club. C'est fait.
Voilà.
Il est arrivé au camp d'entraînement aujourd'hui.
Alors, ça n'a pas encore été officialisé.
Mais j'ai vu les images. Il est arrivé.
Oui, mais tu sais, on peut pas annoncer que c'est fait tant que c'est pas fini. Ça n'a pas été officialisé.
En Chine, c'était le mieux payé, mais il a fait une dépression nerveuse, tout simplement.
Il était avec sa famille.
Il était tout seul.
32 millions annuels.
C'était le joueur de foot le mieux payé au monde. 40.
Mais il avait dit, je crois.
Non, c'était
Bess. C'était le mieux payé, ouais.
Mais il a fait une dépression nerveuse, c'est tout bête. Il a fait une dépression, il supportait plus d'être là-bas et il s'est fait un peu raquer et puis il a décidé de revenir. Mais bon, quand il est parti, ça puait que ça allait durer 6 7 8 mois maximum et qu'il reviendrait. Ça c'était déjà à demi-mois annoncé par le président de Boca. Non, il a fait même pas un an.
Même pas un an
là-bas.
En Chine,
je crois pas qu'il ait fait un an.
Si, un petit peu plus.
Non, les gars, regardez bien.
Écoute, je vais vérifier ça dans un instant.
Il a fait un an, bah, a tout cassé.
Oui, non, mais pas beaucoup plus, hein, mais
L'équipe de Boca, là, c'est quelque chose. L'effectif qui se font, avec Mas, Buffarini, et Tevez en recrue, ça a quand même de la gueule, hein.
Bon, je suis en train d'essayer de vérifier combien de temps a passé Carlos Tevez. Écoute, t'as raison. Il a joué 11 matchs. Deux buts marqués. Un an.
Un entourant, voilà, hein, même voilà, pas, tu vois, ça a pas duré longtemps. C'était ce qui était prévu, hein. Il a été pour raquer, mais.
Une année à 32 millions d'euros.
Il pensait faire 2 ans, à la base, et revenir après, mais c'était un feuilleton, hein. Enfin.
Allez.
Il a
pété un câble là-bas. 2-3 infos supplémentaires. On réclame toujours la démission de Jocelyn Gourvennec, qui a été confortée, par sa direction, entraîneur de Bordeaux. Pourtant, les ultramarines, ils réclament sa démission. C'est vrai que c'est aussi ses choix sur le terrain qui sont pas forcément appréciés par les supporters. Il y a pas mal de critiques, notamment à l'encontre du choix d'avoir fait reculer tout l'allant sur le terrain. On attend aussi beaucoup du mercato, même si Swahilo Maïté est déjà arrivé du côté de Bordeaux.
Mais c'est le numéro 10.
Il y a beaucoup de défiance.
Ali Benarbia a eu un infarctus de Rio.
Pardon
ça. Que Maïté aurait le numéro 10. Non, mais non, je n'en sais rien, je suppose. Hein. c'est horrible.
Moi, je pense que c'est le manager auquel je crois dans ce club. Ouais. Même si depuis qu'ils en ont pris 6 à Paris, c'est la dégringolade. Je pense qu'il a les clés avec ses joueurs pour se remettre dans le bon sens. Il faut le faire vite, c'est sûr. Je pense que c'est l'homme de la situation dans ce club-là, avec cette gestion-là.
Est-ce que c'est un bon technicien et tacticien? Sûrement.
Je pense que le travail qu'il a réalisé à Guingamp est un travail qui plaide pour lui.
C'est un très bon technicien. C'est un bon manager aussi. En revanche, le doute que j'ai, c'est est-ce que il a en lui le caractère pour prendre un club de ce standing-là. Et pour l'instant, moi, je suis très enthousiaste. J'adore Gourvennec.
Bordeaux. Jonathan, le standing.
C'est
de
vrai,
Bordeaux,
que c'est calme. On attend des résultats. On n'attend pas jusqu'à ce que ton équipe joue bien. On attend des résultats.
Pas.
Il y a des impératifs économiques et des impératifs de résultats que je n'avais pas à Guingamp. Mais après, j'adore Gourvenec, donc c'est, je suis un peu, honnêtement, je sais pas quoi en penser pour l'instant.
Je pense que c'est la situation. Je pense qu'il y a des soucis par rapport à l'outillage, par rapport à la qualité de l'effectif. Ouais.
Et ils attendent encore, ils attendent encore beaucoup de joueurs.
C'est vrai que ils ont 6 au parc. Ouais. Et qu'après, c'est une,
rigolade. Mais le recrutement, c'est lui qui l'a fait de A à Z, cet été. Et les joueurs qui voulaient,
planter sur ça.
Il y a eu l'élimination face à, au roi de Vidéoton, au cœur de métier, en tour préliminaire d'Europa League. Tiens, des légendes suédoises en pagaille qui arrêtent en ce moment. On a vu Kim Karlström l'autre jour. Là, c'est Johan Elmander qui a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière aujourd'hui.
Il est où?
Il évoluait en D2 suédoise. Et je crois que je crois que c'était en D2 suédoise. Et il a décidé d'arrêter tout de suite, sa carrière.
Une petite larme.
Mais écoute, un petit peu, parce que moi, je me souviens d'un triplé qui avait permis à Toulouse d'aller jouer la Ligue des Champions 2007.
Contre Liverpool.
Oui, contre Liverpool.
Préliminaire contre Liverpool.
1-0 au stadium, 4-0.
C'est un putain de joueur, hein. Ouais, c'est un sacré joueur. Sacré neuf, hein.
Sacré neuf, ouais.
Il était à Bolton beaucoup, non, en Angleterre.
Oui, effectivement, après le TFC.
Il n'a pas évolué dans un grand club.
Non. Mais bon. En tout cas, avec le TFC, il les a un petit peu portés vers le haut. Messieurs,
c'est quelque chose. Hein.
On va marquer une pause dans un instant. L'after revient. Tiens, d'abord, un petit point sur les scores sur nos terrains du soir en Italie, notamment Benji Ramagé, le match entre la Fiorentina et l'Inter Milan.
Il y a toujours 1-0 pour l'Inter, but de Mauro Icardi à la 55e. Et puis, égalisation d'Everton dans le derby de la mer. C'est un but partout désormais. Les buteurs, James Milner sur penalty et Gylfi Torsiek-Gjørtsen pour l'équipe d'Everton.
Allez, les amis, tranchés dans un instant. Pas de jaloux, on parlera de l'OM et du PSG.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Arnaud Souk.
Jusqu'à minuit l'after sur RMC avec ce soir François Malardo et Jonathan Macardy. Il est 22h29. On va retourner juste avant vos avis tranchés, messieurs, sur nos terrains du soir. Fiorentina, Inter Milan. La 20e journée de Serie A, c'est le début des matchs retour, Benjamin Ramagé.
Il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre, toujours 1-0 pour l'Inter. L'Inter qui a ouvert la marque à la 55e grâce au 100e but déjà en Serie A, seulement 24 ans de Mauro Icardi. Et puis du côté d'Anfield, il y a toujours un but partout à 14 minutes de la fin du match. Ça c'est de la FA Cup, le 3e tour, les buteurs James Milner sur penalty à la 35e pour Liverpool, égalisation de Sigurdsson à la 62e pour Everton. Vous avez donné les infos transfert tout à l'heure, messieurs, sachez qu'Everton a officialisé la venue de Cenk Tosun, celui qui avait massacré à lui tout seul la défense de Monaco cette saison en Ligue des Champions. C'est une bonne pioche.
Merci Benjamin. Si bémol, tiens, qui nous dit sur le hashtag RMC Live, il nous demande si Jérémy Ménez c'est vraiment un sujet dans une émission de foot. Ouais, on a parlé de Jérémy Ménez au Mexique, c'est pas très sympa pour lui.
Oui, c'est un sujet, oui, un ancien international.
On a fait long.
Je sais pas comment c'est international, génération 86, on en parle.
Ouais.
La
fameuse
87,
Benarfa, Benzema, Messi.
Allez, tout de suite, c'est la vie tranchée de Jonathan Macardy.
Jonathan, très bon dans le
meilleur en MMA qu'en foot.
Ah bah oui, souvent je comprends rien quand il parle de football, mais là j'ai tout compris.
Bon, Jonathan,
je lui montrerai un jour pourquoi ça.
Juste avant de te donner la parole, tu vas nous parler de Kostas Mitroglou. Tu vas nous dire tout le bien que tu penses de ce joueur, ou en tout cas tout le mal que tu ne penses pas de ce joueur.
Voilà, plutôt.
Juste, il y a Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse. On lui a posé des questions forcément sur Kostas Mitroglou, l'attaquant tant controversé de l'Olympique de Marseille. Voilà ce qu'il a répondu.
Je pense qu'il est victime du contexte, Kostas. Et je pense que c'est pas parce que c'est lui. Tout attaquant qui sera arrivé dans les derniers jours du mercato et dont on déterminerait comme ça a été fait, comme un panic buy ou quelque chose comme ça, et qu'on n'aurait pas acheté suffisamment cher, serait quelqu'un qui serait dans la ligne de mire des observateurs, on va dire, et qui malheureusement n'aurait pas tout le temps et la confiance qu'il faut à un attaquant pour bien s'exprimer. Donc moi j'ai confiance en Kostas comme je l'ai en Valère. Clinton peut jouer là aussi, c'est des joueurs complètement différents les uns des autres, et donc du coup ça nous donne une richesse intéressante, et tant qu'on marquera des buts, ça se passera bien.
Panic buy de Rudy Garcia, achat en panique, parce qu'on rappelle que Mitroglou a été acheté dans les toutes dernières heures du mercato, payé 15 millions quand même par l'Olympique de Marseille. Je te donne ma parole, Jonathan. C'est pas grand chose.
Pour un neuf, c'est pas grand chose. Oui. Écoute, alors, est-ce que Mitroglou était le neuf, le grand attaquant que je voyais pour l'Olympique de Marseille, qui devait être un petit peu le porte-étendard du projet? Je ne pense pas. Est-ce que Mitroglou a le profil pour être ce joueur qui devient le porte-étendard du projet? Je ne pense pas non plus. Mais en fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que pour l'instant, j'entends beaucoup de choses assez injustes sur lui. J'entends qu'il est nul, qu'il faut le vendre, qu'il faut l'envoyer en Chine. J'entends qu'en Ligue des Champions, si tu veux aller en Ligue des Champions, tu vas être ridicule avec lui. Je suis désolé, mais je pense que ces critiques sont surfaites et on a tôt fait de le dégainer un peu trop rapidement. Pourquoi? Déjà, l'argument en Ligue des Champions, Mitroglou, blablabla, bla, je suis désolé, mais quand on regarde les stats en Ligue des Champions, ouais, il a quand même marqué.
Oui, ce soir
avec l'Olympiakos, avec, ouais, le Benfica, en étant chapeau 3 avec l'Olympiakos.
En poule,
en étant chapeau 3, donc dans des poules où l'opposition était quand même assez élevée. Donc ça, cet argument de dire que sur la scène européenne, il n'a jamais performé, il ne tient pas. La deuxième chose que je vois, c'est ses performances. Alors, il y a les performances qu'on voit sur le terrain, le ressenti, c'est que je vois un joueur qui techniquement est complet, qui techniquement est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. Je le trouve quand même assez sûr. Je trouve qu'il a des gestes de vrai footballeur. Il a, sur ses contrôles, sur ses prises de balles, sa capacité, quand il veut bien, à garder le ballon dos au but. Je trouve que, techniquement, on sent qu'il a quelque chose. Quand on regarde les perfs d'une manière un petit peu plus du côté statistique, il y a cette statistique qui, pour moi, veut dire beaucoup, c'est les expected goals. Il est quand même à 0,72 expected goals par match. C'est, à part Cavani, il n'y a pas mieux. Alors, il y a quelques exceptions, genre les joueurs qui ont joué 20 minutes par-ci par-là, mais à part Cavani, il n'y a pas mieux. Il est au niveau de Falcao. C'est une stat qui regroupe, en fait, qui analyse tous les tirs et toutes les positions, ouais, les situations qu'a un joueur dans la surface de réparation, ouais, ou dans les attaques placées.
Ouais.
Il faut que ça se concrétise par un tir. En fonction du pied qui est utilisé, de l'angle, du nombre de défenseurs, de la position des défenseurs, tout ça, il y a la probabilité.
Sur comment tu vendanges.
Non, ouais, voilà, exactement, François. Et si le but ne se convertit pas, ça veut soit dire que t'as vendangé. Oui, ça veut dire que le gardien a fait un arrêt exceptionnel. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette stat, c'est de montrer si un attaquant se met en position de marquer, se met en position concrète de marquer. Et il est quand même au niveau de Kylian Mbappé. Il est au-dessus de Radamel Falcao, ouais, sur cette stat.
Il a marqué que deux buts.
Ça veut dire quelque chose.
Faut le ramener.
En moyenne par match. Hein, en moyenne par match.
Faut le ramener au prorata des matchs joués.
Ensuite, quand on regarde le nombre de matchs joués,
11.
Il a combien joué en temps de jeu. Je remercie les Romain Canucci du Fosséen. En temps de jeu, il a joué l'équivalent de 7 matchs et demi.
C'est lui qui fait les bouteilles de whisky?
Non, mais c'est quand même
Non, mais c'est 11 matchs.
Oui, mais en temps de jeu effectif, ouais, il a joué l'équivalent de 7 matchs et demi. Ce qui est pas grand chose pour un joueur qui arrivait, qui découvre un nouveau championnat, qui arrivait dans les derniers jours du mercato, qui a pas fait la préparation physique avec les autres. Enfin, un autre argument, c'est que, qui me semble être quand même assez important, c'est que quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, on n'a jamais vraiment eu de la chance immédiate avec les numéros 9. Et je vous rappelle juste qu'André-Pierre Gignac, ses deux premières saisons, elles sont atroces. Je vous rappelle juste que Mamadou Niang, quand il arrive, les six premiers mois, on se demandait s'il valait pas mieux mettre Habib Bamogo ou Toifulu Maoulida à sa place. Brandao, même si ça n'a pas été un nom marquant l'Olympique de Marseille, pareil, au début, c'était pas ça.
J'ai pas le souvenir d'avoir vu Gomis, par exemple, autant vendanger.
Gomis, c'est l'exception, Arnaud. Ouais, Gomis, c'est l'exception, mais Gomis.
On parle de quelle génération?
Non, c'est pas un neuf, André Ayou.
Non, mais des
on parle de quelle génération?
Mais c'est pas
remonter
un...
jusqu'à.
Non, mais moi, je veux remonter dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Là, tu parles de Gomis, d'accord, c'est l'exception, j'allais y venir. Mais André Ayou n'est pas un neuf. Donc, quand on voit ça, quand on voit ce qu'a fait après Mamadou Niang ou ce qu'a fait André-Pierre Gignac, je me dis, ça vaut peut-être le coup d'attendre. Et d'ailleurs, Jacques-Henri Hérault a sorti cet argument que je trouve bon en disant, voilà, regardez ce qu'a fait André-Pierre Gignac ces deux premières saisons et regardez les trois dernières, ce qu'il a fait, comment il a porté le club. Je pense que ça peut s'attendre. Ça peut, du moins. Alors, le but de mon propos, c'est pas dire que Mitroglou, c'est un grand attaquant. C'est pas parce qu'on expected goals, il est à 0,72 qu'il est au-dessus de Falcao ou de Mbappé. Loin de là, bien sûr que non, on est dans des galaxies différentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un joueur à qui on peut quand même encore laisser un peu de temps, qui a quand même prouvé des choses par le passé, y compris sur la scène européenne.
Enfin, tu sais, Snyder aussi, il avait prouvé des choses avant d'arriver
Mais c'est pas la même chose, Arnaud, c'est pas le même âge, etc., c'est pas le même contexte. Donc, je pense qu'on peut quand même lui laisser encore le temps avant de le crucifier, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on fait, c'est on le crucifie, on l'envoie déjà en Chine. Je dis pas que ça va réussir, j'en sais rien. Mais en tout cas, je demande à voir. Et le seul bémol que je mettrais, parce que ça, pour en avoir parlé avec Nico Villas, qui donc l'a vu beaucoup au Portugal, c'est que les échos qu'il en avait du côté du Benfica, c'est que techniquement, effectivement, c'est un joueur qui a en lui d'être un très très bon neuf, mais que le problème, ça va de la motivation. C'est un joueur qui est pas forcément toujours très motivé, qui est pas forcément toujours très concerné par le football. Et voilà, c'est le bémol
ça
que je mets.
Problème.
Mais j'espère que il va se rendre compte qu'il est quand même dans un club qui est important. J'espère que Rudy Garcia et le staff de l'OM trouveront les mots pour le motiver. Et avant de le crucifier, laissons encore un petit peu de temps parce qu'on sait jamais.
On a le droit de penser que l'OM mérite mieux ou pas?
Mais je te dis pas le contraire.
On a le droit de penser que l'abandon d'Hugo Miss a été l'erreur, la plus grosse erreur.
En préambule, ce que j'ai dit, c'est que je pensais pas que c'était le neuf. Je voyais pas. Quand t'es le champion project, tu t'attends quand même à quelque chose d'un peu mieux. Tu t'attends à dépenser un peu plus que 15 millions d'euros pour.
Ah oui, surtout quand tu recrutes Payet pour je sais plus combien. 30 millions
avec le salaire. Et le salaire.
Il est irrevendable.
30 plus le salaire. Tu t'attends quand t'es le champion project à avoir ton neuf avant la préparation d'été. Voilà, donc... Tu t'attends beaucoup de choses. Mais alors, il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même un juste milieu entre s'attendre à mieux, vouloir mieux pour l'OM et le crucifier tout de suite. Allez, attendons encore un
pas,
petit peu.
C'est pas un premier choix, c'est un huitième choix.
On peut.
C'est vrai.
Attends, oui, mais attends, mais ça, le huitième que tu me dis, ça va pas à l'encontre de ce que je t'ai dit.
Ben non, mais je suis d'accord avec toi.
Attendons encore un peu. Il y a quand même des faits qui montrent qu'on peut encore attendre.
François.
11 matchs ou 7 matchs et demi, 2 buts. Moi, j'ai une autre statistique, mais qui n'appartient pas aux joueurs grecs. C'est 17 matchs disputés, 14 buts. À qui appartient cette statistique?
J'en ai aucune idée.
Bafétimbi Gomis avec Galatasaray. Mm-hmm. Moi, sur le cas, enfin, sur Konstantinos Mitroglou, je demande encore à voir. Faut encore payer pour voir. Après, le souci, tu l'as un peu souligné, c'est que quand tu demandes de la patience, c'est vraiment pas une qualité qui est partagée dans le monde du foot professionnel, surtout quand tu es un des deux Olympiques en France et le Paris Saint-Germain. C'est difficile d'attendre. C'est difficile d'attendre quand tu as la direction de ce club, et c'est encore plus difficile d'attendre dans le contexte phocéen où la patience n'est pas la première des vertus. Maintenant, moi, je pose le problème d'une manière différente. Comment cette direction, avec ce projet-là, laisse partir ce joueur-là, qui en a claqué 14. Alors, si on commence à venir nous dire, pas qu'à moi, mais qu'on vienne nous dire, oui, mais le championnat turc, c'est un championnat facile. Les 14 buts, il faut les claquer.
Non.
Les
14
buts, il faut les claquer. 14 en 17 matchs, ça fait un ratio de 0,7-0,8. Il était à l'Olympique de Marseille.
Tu veux que je te réponde?
Attends, Mitroglou. Il a des stats qui sont pas du tout infamantes avec Benfica. Il fait 17 et 21 buts sur les deux dernières saisons. Championnat portugais, il se tient avec la qualité du championnat de France. Et il est dans un club qui est un club aussi huppé que l'Olympique de Marseille.
Si okay c'est à l'heure actuelle un peu plus.
Okay. Oui, alors à l'heure actuelle, après, oui, on peut forcément dire que c'est plus même. Si ce n'est, non, plus. C'est un club qui s'expose très régulièrement en Ligue des Champions. Un championnat un peu moins équilibré avec le nôtre, mais avec un grand club européen où il a fait ses preuves les deux dernières saisons. Avec l'Olympiakos, ça va, ça vient, mais bon. Là, 17-14 pour Bafétimbi Gomis à Galatasaray. Voilà.
Il le laisse. Je vais te répondre, c'est un point important.
Mais c'est Bafétimbi Gomis.
Je vais te répondre, tu sais pourquoi ils ont fait ça? Ils pensaient avoir mieux plus tôt. C'est
oui,
tout.
Non, mais ils pensaient avoir mieux plus tôt. Ils avaient aussi.
Donc c'est une erreur de
l'argent libéré. Surtout qu'ils libèrent un salaire à 5 millions, c'était ça, hein, Bafétimbi Gomis, pour recruter derrière un autre salaire à 5 millions, même si c'est pas tout à fait au même poste.
Et donc, les salaires, ils perdent beaucoup aussi. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas ce que je dis.
On va aller voir Benji Ramagé parce que je crois qu'un but a été marqué et pas n'importe lequel dans le match de Coupe d'Angleterre, Benji.
Ouais, c'est un événement en field. Premier match de Virgil van Dijk qui a acheté 84 millions d'euros à Southampton par Liverpool. Toutes les caméras n'arrêtaient pas de le suivre depuis le début de la rencontre, et là c'est lui qui vient dans le derby de la Mersey claquer la tête de la victoire, 2-1, 85e minute, le corner de Chamberlain, la tête de Van Dijk qui a été félicité par tous ses coéquipiers, et à l'instant également l'égalisation de la Fiorentina à la 90e, et ça va faire rire Jonathan puisque c'est le fils de Diego Simeone, ça ne nous rajeunit pas, qui marque sur une passe du fils d'Enrico Chiesa. Voilà, les fils d'eux qui sont à l'honneur. Magnifique. Entre Fiorentina et Inter.
Merci Benji, on accueille Logan, supporter de l'Olympique de Marseille, qui nous attend au 32-16 depuis un petit moment. Salut Logan.
Bonsoir.
Salut Logan.
Vas-y, Logan. Ta réaction sur notre débat autour du cas de Konstantinos.
J'ai entendu un petit peu de tout. J'ai entendu du bon, j'ai entendu du moins bon. Première chose sur le niveau de Mitroglou en lui-même. Je suis allé voir quelques matchs au Vélodrome. Quand vous parlez, je sais plus de quelle statistique parlait
les expected goals.
Voilà. Sincèrement, quand tu le vois faire un match, le nombre d'appels qu'il fait, le nombre, par exemple, quand il y a un centre, il est jamais au premier poteau. Il est jamais placé. Alors, tu le compares à Cavani, Falcao, Mbappé.
C'est bien différent, hein.
C'est bien différent, mais je peux te jurer que quand tu vas regarder un match au Vélodrome, les appels qu'il fait, tu te demandes si ce joueur il a le niveau pour jouer en CFA2. Très sincèrement. Après, je suis un petit peu d'accord avec vous. Niang, quand il est arrivé à l'OM, c'est pareil. Niveau CFA2, on ne savait pas si.
Il fallait faire jouer Habib Bamogo à sa place.
Voilà. Après, tout à l'heure, vous parliez de Gomis, d'un attaquant qu'on a laissé partir. Il y a un autre attaquant dont vous n'avez pas parlé, qui est Aboubakar, qui devait venir à l'OM, qui doit être à 13 buts, je crois, en championnat portugais depuis le début de la saison, qui valait à peu près le même prix que Mitroglou.
Il a pas voulu venir. C'est lui qui a pas voulu, Logan.
C'est lui qui a pas voulu venir.
Il a fait perdre un temps fou à la direction olympienne.
Voilà, mais je pense que il était quand même dans les petits papiers de l'OM. Si l'OM avait fait le forcing,
L'OM a fait le forcing. C'est pour ça qu'ils sont réduits à acheter Mitroglou en panique à la dernière journée du
mercato. Mais il a pas voulu.
C'est lui qui a pas voulu. Il a les appels espérés.
Il a pas voulu venir. Après, sincèrement, je pense que l'OM avait quand même les arguments pour le faire venir. Ils l'ont pas fait venir, ils sont pris au dernier moment comme d'habitude.
Non, là, ils ont commencé à le travailler assez tôt, Aboubakar, hein. Détrompe-toi.
Ouais, ils l'ont travaillé assez tôt, mais Mitroglou, pareil, il l'avait travaillé assez tôt, sauf que c'est le seul qui a voulu venir au dernier moment.
C'est plus compliqué.
Et sincèrement, quand tu le vois jouer au foot, c'est triste. C'est vraiment triste.
Ah bah pour l'instant, c'est sûr, oui.
Et je sais plus qui d'entre vous disait qu'il faut lui laisser du temps. Moi c'est Jonathan. Il me fait vraiment peur sur le niveau qu'il a. Physiquement, quand vous le regardez, il est gros.
Ah bah il est pas en forme, oui.
Il est gros, il est pâteau, il est lent, il a des défauts en fait. Tout ce qu'on a pas envie de voir à la pointe de l'Olympique de Marseille.
Des fois, quand tu le regardes jouer, tu sens que techniquement il est juste, mais c'est lent, c'est beaucoup trop lent. Enfin, je veux dire, pour jouer à l'OM, même Valère Germain, qui est quand même, c'est pas un grand.
Il est pas en forme. Non, mais c'est un joueur qui est hors de forme, ça se voit du d'œil.
Alors du coup, on lui laisse combien de temps? Parce que là, c'est quand même l'attaque de l'OM.
On lui laisse combien de temps? On lui laisse de jouer un petit peu janvier-février, et puis avec la préparation en hiver, avec la trêve hivernale. Après, on verra.
Là, Jonathan et Logan, par rapport à la coupe, c'est le moment vraiment pour lui de saisir sa chance.
Oui, mais vous savez très bien, messieurs, vous savez très bien que en janvier-février, il sera pas prêt. Depuis ce qu'on voit, depuis le début de la saison.
Je laisse jusqu'au printemps.
Non mais ça ne tient qu'à lui. La préparation individuelle, ça ne tient qu'au joueur.
Déjà à la base, on sait quand il arrive, il est pas. Enfin, c'est pas.
Il est blessé.
Top player. Bon, ok, on lui laisse un peu de temps, 2-3 mois, il fait rien. Rien, on est d'accord,
Il arrive blessé, il arrive sans préparation physique, il a passé l'été à se soigner justement, il arrive dans un nouveau championnat.
Au bout de combien de temps il a commencé
à être dans le groupe. Il y a la de sa blessure, ouais, c'est ça.
Alors attends, tu t'imagines quand même, il est arrivé au mois d'août, le 31 août, jusqu'en octobre, c'est quand même un pro, hein.
Il était blessé.
Bon,
c'est pas pareil.
Voilà. Allez, on remercie Logan d'avoir fait le 32-16, supporter de l'Olympique de Marseille. Bonne soirée à toi, Logan.
Salut, Logan.
Dans un instant, ton avis tranché, François, sur le Paris Saint-Germain. Petit détour par les matchs du soir en Italie et en Angleterre avec Benji Ramagi.
Et c'est terminé à l'instant en Italie, match de la 20e journée de Serie A, un but partout, score final entre la Fiorentina et l'Inter, un but de Mauro Icardi pour l'Inter et un but de Giovanni Simeone, le fils de Diego Simeone pour la Fio. Et puis il reste quelques minutes, 2 exactement dans le derby de la Mersey, 3e tour de la FA Cup, 2-1 pour Liverpool face à Everton.
L'institution PSG aurait-elle du mal à s'affirmer? On va se poser la question dans un instant dans l'after sur RMC BFM Sport. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Arnaud Souk.
22h46, c'est l'after sur RMC, en simultané sur BFM Sport ou sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image, le son et l'image notamment de François Manardo et de Jonathan McCarty qui sont à mes côtés. Jonathan, je t'ai laissé la parole sur l'OM. À présent, je vais laisser la parole à François sur le PSG.
Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Alors, on va équilibrer les débats olympiques de Marseille, Paris Saint-Germain.
Tu sais que tes phrases, elles sont
pas fait. On l'a pas fait exprès. Juste, hein. On a un avis tranché avec une circoncision, finalement, ça match. Voilà. Hein.
Allez.
L'institution, on l'a souvent dit dans cette émission depuis 12 ans, hein, je crois, cette année. L'institution, elle doit être au-dessus de tout et au-dessus de tous. Lorsque je découvre encore que 2 joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain, et pas des moindres, sont en retard du retour de la trêve hivernale, j'en tombe pas à la renverse, parce que c'est pas un drame non plus, c'est pas un scandale, ça va se passer sans doute avec une amende et puis des excuses auprès de l'effectif du Paris Saint-Germain, qui lui était à l'heure. Mais je suis toujours surpris par ce club qui n'arrive, à mon sens, toujours pas, même si c'est très difficile, parce qu'il y a un projet qui s'est mis sur pied depuis pas mal d'années et qui est un projet extrêmement ronflant et extrêmement prestigieux, mais qui n'arrive toujours pas à prendre la main, à prendre le dessus sur un effectif qui est un effectif extrêmement prestigieux de stars, pour la plupart d'entre elles, et qui se permet d'avoir 24-48 heures de retard, et je crois pour un des deux joueurs en question, il me semble que c'est Pastore, aucune explication. Je vais vous raconter une anecdote qui remonte à la saison...
Cavani a été vu aujourd'hui au camp des loges, mais...
La saison 2002-2003, donc ça remonte à un certain temps, c'était pas le projet Qatari, c'était le Paris Saint-Germain tout court. Il y avait un joueur dans cet effectif qui était Ronaldinho, qui venait d'être champion du monde 6 mois plus tôt en Corée et au Japon, et qui, de retour de trêve hivernale, lui a accusé 4 jours de retard. Il se trouve que je travaille dans le club, il se trouve que le jour où il revient au camp des loges, je suis là. Donc je le vois sortir avec son frère, là, Roberto Assis, de la bagnole, mi-souriant, mi-gêné quand même, parce qu'il sait qu'il avait un petit peu prolongé de trop les vacances au Brésil, et puis il rentre dans l'ancien bâtiment du camp des loges. Luis Fernandez, qui est l'entraîneur à ce moment-là, l'accueille, pas d'une manière très souriante, évidemment, vous en doutez, ferme la porte qui séparait le vestiaire du joueur du reste des bureaux des pros camp des loges, et puis il lui a demandé une explication, il lui a demandé surtout de présenter ses excuses auprès du groupe professionnel, ce que Ronaldinho a fait. On parle d'un joueur qui, à ce moment-là, est quasiment en train d'être confirmé comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde et qui ensuite va le confirmer à Barcelone quelques mois plus tard. Et puis il y a un joueur au sein de l'effectif parisien qui prend la parole pour le tenser, pour lui expliquer que, par respect pour ses coéquipiers, eh bien, c'est quelque chose qui ne se fait pas, parce qu'eux étaient à l'heure. Ce joueur, c'était Lionel Letizy. Je pense qu'il est capitaine du Paris Saint-Germain à ce moment-là. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui un Alphonse Areola ou un Kevin Trapp faire la même chose? Évidemment, ils vont pas le faire, parce que mon constat, finalement, avec cette histoire de retard, qui, encore une fois, n'est pas scandaleuse, mais qui, pour moi, est encore une preuve que ce Paris Saint-Germain-là, avec ce projet-là, alors certes, il faut beaucoup d'autorité, il faut beaucoup de fermeté, finalement, il faut pas mal de courage à ses dirigeants, pour dire, quel que soit ton nom, quel que soit ton pédigré, quel que soit ton standing, quel que soit ton salaire au sein de notre masse salariale, le Paris Saint-Germain est au-dessus de toi. En plus, on a affaire à deux joueurs qui sont pas des fouteurs de merde. Loin s'en faut. Qui sont pas non plus les leaders de ce vestiaire, mais qui se permettent, encore une fois, c'est pas la première fois, il me semble, pour Cavani, d'arriver en retard.
Cavani évoque des raisons personnelles, voire...
Mais sa famille est en Uruguay.
Familiale.
Okay. Non mais, ok.
Même si, voilà, l'entourage okay, mais... en interne dans le club, on parle plutôt de spleen.
Unai Emery ne l'a pas excusé. A pas dit, ok, il a des circonstances. Ce qui, moi, me gêne de la part d'un club qui a l'ambition légitime de s'écrire une histoire, c'est que cette histoire, elle est toujours pas écrite, que c'est toujours la République des joueurs. Alors, il faut composer entre la République des joueurs et une direction forte. Mais je constate encore, objectivement, que c'est un club où ceux qui ont la main sont des cadres qui sont dans le vestiaire parisien, et c'est pas les dirigeants.
Ils ont dit, les dirigeants, qu'ils allaient pas les punir?
Qu'ils les punissent. Mais d'abord, que tu les punisses, que tu leur fasses payer une amende, et qu'ils présentent leur excuse. C'est que dans d'autres grands clubs, mais qui ont une histoire de grands clubs, ça arrive rarement.
Mais ça arrive. Arthur Vidal au Bayern.
Voire jamais.
Tu peux pas. Quelle est la plus grande institution que le Bayern Munich?
En Allemagne.
Non, dans le monde. Quel est le club le plus puissant institutionnellement parlant dans le monde?
Bon, le Real,
c'est le Bayern. Le Real.
Dans la fermeté
de l'institution, c'est le Bayern. Et ça n'empêche pas certains joueurs.
Mais de
Vidal,
pas beaucoup. Mais ça arrive.
Mais c'était
le Bayern.
Ça arrive. De pas.
Oui, effectivement.
De pas beaucoup.
Ça arrive. Mais ça arrive.
Mais je dis pas que ça n'arrive pas. Je dis simplement que ça se reproduit de nouveau dans un club où tu dois... Attends, tu me laisses finir, s'il te plaît. Tu dois avoir la capacité, à un moment donné, quand tu veux t'inscrire comme un grand club européen, et pas en France, à un moment donné, de dire, ça, c'est les règles. Et ces règles-là, vous devez les respecter. Parce que, pour l'avoir aussi vérifié de l'intérieur, parce que c'est facile de dire devant un micro, quand tu laisses les joueurs, et quand tu envoies un message, ok, vous vous excusez, ok, vous allez payer une amende, mais les Dani Alves, les Neymar qui viennent de débarquer, qu'est-ce qu'ils constatent? Même s'ils le voient à travers un joueur chilien qui arrive en retard à une reprise d'entraînement d'un club comme le Bayern, même s'ils peuvent peut-être l'avoir vu dans leur carrière, là, ils sont dans un club qui se construit au niveau mondial. Ouais. Ils se disent que finalement c'est les joueurs qui dirigent.
Non. Ton discours, je suis 100% d'accord avec lui, mais je trouve qu'il est pas de circonstance, dans la mesure où, d'une part, comme on l'a dit, ça arrive dans d'autres grands clubs. Mais ça arrive. Arthur Vidal au Bayern, par exemple, il est déjà arrivé en retard. Il y a des cas.
Quel autre tu peux citer?
Il n'était pas arrivé en retard quand il était au Barça. Ça lui est arrivé deux fois.
ça lui est arrivé deux fois. Cristiano, il a pas eu des problèmes aussi à certaines reprises où il était au Maroc.
C'est arrivé d'Amérique du Sud.
Non mais au Maroc, c'est arrivé aussi. Ça arrive dans tous les grands clubs. Le problème maintenant, là où je les attends, c'est la réaction. La réaction. Moi, ce que je vois sur le Paris Saint-Germain, c'est que c'est un club qui, du point de vue institutionnel, tournait pas vraiment rond depuis l'arrivée des Qataris. Je vois que depuis cet été, ça va beaucoup mieux avec l'arrivée d'Enrique. Je trouve qu'ils font tout dans le bon sens. Ils se sont séparés de certains fauteurs de troubles. J'attends de voir la réaction qu'ils auront. S'ils réagissent, qu'ils les punissent et qu'ils les mettent à l'amende, je pense qu'il y aura pas. C'est ce qu'il faut faire. Mais tu peux pas l'empêcher, François. Ça arrivera. Regarde, tu parlais de Ronaldinho. Ça arrivait.
Les gars.
Et ce qui était intéressant dans ton exemple de Ronaldinho, c'est que tu nous as expliqué la réaction de Fernandez, la réaction du vestiaire.
Aujourd'hui, tu vas pas avoir de Lionel Letizy au Paris Saint-Germain.
Vous savez ce qu'on va faire? On va accueillir Ludovic, supporter du PSG qui a fait le 32-16. Salut Ludovic.
Salut.
Salut Ludovic, bonne année.
Si tu me permets d'ajouter quelque chose, meilleur vœu, juste la réaction quand même de Unai Emery quand on lui a demandé voilà la date du retour de ces Sud-Américains aujourd'hui en conférence de presse, il a dit je sais pas, peut-être que Cavani va venir aujourd'hui à l'entraînement, mais je sais pas, j'en sais rien.
Ça c'est grave.
C'est pas surréaliste. Ludovic, je te donne la parole.
Bah moi je suis pas étonné. Hein. Même si Cavani, bon, il a ses problèmes personnels avec ses enfants. Mais bon, quand on voit que les années précédentes, avec exemple les Verratti, les Rabiot, chacun fait ce qu'il veut en fait dans le club. Hein. Il manque d'autorité. Ils sont pas pris au sérieux. Je pense que là, les dirigeants sont pas pris au sérieux, quoi.
C'est pas les dirigeants simplement, mais c'est que c'est un club. C'est un club qui a une histoire très jeune de par sa date de fondation, ok, mais que plus l'institution a une histoire, plus elle est respectée, plus elle est grande. Après, évidemment, Jonathan, tu peux rencontrer des écarts. Mais je n'ai cité aujourd'hui, c'est vrai, que les retards de ces deux-là, qui sont pas en plus des gars qui passent pour être des fauteurs. En retard à la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain, alors qu'en plus, c'est le club qui a donné 24 heures de rab. Mais c'est vrai qu'il y avait après d'autres exemples, mais je veux pas tout mettre dans le même panier, mais où l'autorité du club est malmenée depuis pas mal de temps.
Mais ça va mieux depuis cet été quand même. Là, je trouve qu'on fait vraiment d'une petite histoire au PSG, on essaie d'en faire un microdrame, mais.
Non, c'est pas un drame. Mais je vais te dire, Attends.
C'est juste qu'il y a un exemple.
En termes de solution, c'est bien d'avoir recruté Antero Henrique, un bon directeur sportif, s'il en est, voire excellent. Mais Antero Henrique, en termes de charisme, en termes d'impact vis-à-vis d'un Neymar, vis-à-vis d'un Cavani, vis-à-vis d'un Daniel Alves, c'est pas personne, mais c'est pas grand monde. Parce que ces joueurs-là ne respectent dans le rapport de force que ceux qui ont été joueurs comme eux à un certain niveau, ou alors un entraîneur qui a vraiment gagné. Ces types-là. Parce qu'ils ont été aussi dans des très grands clubs. Tu vas me la poser juste. Pourquoi le Paris Saint-Germain ne recruterait-il pas un joueur qui a été un grand joueur, qui a incarné aussi une histoire du Paris Saint-Germain avant l'arrivée des Qataris? Ouais. Pourquoi un joueur comme Rai ne pourrait pas être débauché? Aujourd'hui, il travaille pour Sao Paulo, mais pour être débauché, parce que quand t'es Rai et que tu vas dire, écoute, le Paris Saint-Germain est un club important, le Paris Saint-Germain a un projet important, tu respectes ce projet, c'est un autre poids dans le dialogue.
C'est là où je suis désolé, c'est là où tu te trompes. Et depuis le début de l'été, combien de fois t'as entendu Nasser El-Khelaifi s'exprimer sur des cas personnels? Jamais. Depuis le début de l'été, depuis qu'Antero Henrique, tous les joueurs qui sont venus se plaindre de leur contrat, de leur situation, etc., c'est lui qui les a mis à l'amende, qui leur a dit maintenant, je suis là, ça se passe comme ça. C'est arrivé un petit peu comme un cow-boy. Au début, je sais que certains joueurs ont même été un peu surpris d'avoir une figure d'autorité aussi importante. C'est un mec qui fait pas de vagues vis-à-vis des médias, mais je t'assure qu'en interne, il est écouté, il est craint. Et maintenant, là où je te rejoindrai.
Sauf que quand il y a eu le penalty gate.
À 100%, c'est si jamais il y a un qui se passe.
Sauf que quand il y a eu le penalty gate et qu'il était question que les deux, Cavani et Neymar, soient confrontés, que Neymar est allé dire ok, moi je viens, mais je viens avec mon père et mes avocats, et que ça a fait pchit parce que finalement Cavani et lui devaient se voir. Là, c'était ce qu'il fallait faire avec le directeur sportif. Ça ne s'est pas produit parce qu'il y en a un qui a dit ok, moi je viens avec mon armada, et l'Uruguayen, lui, il ramène avec sa
frère. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça?
Ben pour les raisons que j'invoque.
Non, tu sais pourquoi il s'en est pas trop mêlé de cette histoire?
Bah vas-y,
il a laissé Emery gérer, et qu'il voulait juste, enfin, apparemment, ce que j'en ai dit, c'est qu'il voulait voir si Emery était capable de gérer la situation, et ça fait partie des doutes qu'il a sur Unai Emery, Antero Henrique. C'est pas des, il a des doutes sur l'entraîneur.
Alors là, on est dans.
Le vrai problème dans cette histoire, moi, je trouve, pour conclure le débat.
On scoop.
C'est surtout que Unai Emery.
Non, c'est pas un scoop.
Ne soit pas au courant. Il soit au courant de rien.
Mais ça, c'est
voilà.
Ça, c'est
on
non, non, mais si lui n'est pas au courant, ça veut dire qu'Antero Henrique n'est pas au courant.
Quand t'es prévenu.
Non, mais si lui n'est pas au courant, ça veut dire qu'Antero Henrique n'est pas au courant, que Nasser.
Est si fluide entre les deux.
Visiblement, mais, Nasser n'était pas au courant non plus. Hein.
Si, après, si, après attends. Nos infos, il est pas, toi, tu es en train de nous dire, en gros, il s'aime pas trop.
Ah non, non, par, tu disais.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Que tu disais donc qu'Emery ne savait pas et que Enrique ne savait pas.
Non, mais si le coach ne sait pas, j'ose espérer que Théo Henrique ne le sait pas. Parce que Théo Henrique, s'il est bon, et qu'il le sait, qu'il ne le dit pas au coach, qui va.
Bien sûr, sûrement.
Donc, il n'est pas au courant aussi, Théo Henrique.
Mais alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas autorisé? Ça veut dire qu'il doit déconner maintenant, il faut qu'il les punisse.
On remercie.
Oui, mais ça c'est sur l'action.
Dans les résolutions de l'année, je la prends moi aussi. J'aimerais que tout ce qui se passe au PSG ne soit pas forcément décortiqué sous l'œil dramatique
et qu'on
cherche
pas les problèmes
au PSG là où il y en a pas. Quand
t'es le troisième club le plus puissant d'Europe, t'es voilà, même le plus puissant du monde, c'est obligé. Remercie Ludovic d'avoir fait le 32-16.
Qui recrute quelqu'un qui a incarné cette histoire.
Et ça, c'est une bonne idée. Qatar, c'est une excellente idée, ça.
Je vous rappelle les résultats. Enfin, je vous rappelle, non, je vous les donne si vous nous rejoignez à l'instant. Un partout entre la Fiorentina et l'Inter, match de la 20e journée de Serie A. Et puis Liverpool qui a battu Everton dans le derby de la Mersey lors du 3e tour de la Coupe d'Angleterre. On va parler de ces résultats dans un instant avec nos drôles de dames. A tout de suite dans l'after sur RMC BFM Sport, 22h58.
RMC, le super football show, l'after foot.